Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 15 mai 2017. C'est Clotilde Say qui vous parle et qui vous présente les paractualités sur les ondes de Canal M. Avec aujourd'hui en titre, autobus, transport adapté et métro gratuit mercredi prochain pour le 375e de Montréal. Les orthophonistes en milieu collégial, c'est une denrée qui se fait de plus en plus rare. Au centre de réadaptation La Forêt de Drummondville, une salle multisensorielle a été installée pour retrouver le calme. Et puis en Estrie, Andy Apt espère une meilleure reconnaissance dans la région. En Ontario, plus de 10 000 personnes atteintes d'un handicap intellectuel sont sur des listes d'attente pour des programmes d'aide. Et en France, les 6 promesses d'Emmanuel Macron aux personnes handicapées. Deux entrevues aujourd'hui, d'abord avec Sarah Limoges, organisatrice communautaire en défense des droits à moelle épinière et motricité Québec, Mémo Québec, au sujet des pénalités à la rente de retraite des personnes handicapées ayant reçu des prestations d'invalidité. Et puis, je vais aussi m'entretenir avec Louis Adam, directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Division Québec, au sujet du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Alors, autobus et métro gratuits mercredi pour le 375e de Montréal. En effet, écrit Charlotte R. Castillou pour l'agence QMI, pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal, le réseau de transport en commun de la Société des transports de Montréal, la STM, sera gratuit mercredi. De 5h jusqu'à la fin du service, il ne sera pas nécessaire de débourser un sou pour ses déplacements avec la STM. L'autobus, le métro et le transport adapté seront gratuits pour la journée d'anniversaire. Cette mesure s'applique également pour la ligne d'autobus 747 qui relie l'aéroport et le centre-ville. Cette initiative vise à encourager les citoyens montréalais et les visiteurs à participer en grand nombre aux festivités et à utiliser les services de la STM pour se déplacer en ville, peut-on lire sur le site internet de la STM. Comme plusieurs activités sont organisées pour souligner la date officielle de la Fondation de Montréal, la gratuité des services de la STM permettra à tous de fêter avec Montréal. Les orthophonistes en milieu collégial, une denrée rare, c'était sur le site de Radio-Canada Montréal, un texte de Marie-France Bélanger. Les élèves en situation de handicap et qui ont des besoins particuliers sont présents, non seulement dans les écoles primaires et secondaires, mais également dans les cégeps où leur nombre a fait un bond spectaculaire en quelques années. Or, les services offerts à ces cégepiens n'ont pas augmenté au même rythme. Selon les plus récents chiffres de la Fédération des cégeps, ils étaient plus de 11 500 en 2014, comparativement à environ 1 300 en 2007. Toutefois, les ressources pour les aider sont insuffisantes. C'est tout particulièrement le cas pour les orthophonistes. Ils ne sont que 4 au sein des 48 établissements de la Fédération des cégeps et 2 d'entre eux travaillent au Collège Hansick. Mathieu Saint-Pierre Poulain et Martin Forêt ne chôment pas. Chaque année, ils viennent en aide à quelques 400 étudiants, dont la moitié a des troubles du langage. Une bonne partie des apprentissages se fait par le langage, comprendre, raisonner, réfléchir. Si on a cette difficulté-là, on a besoin de stratégies pour compenser, explique Mathieu Saint-Pierre Poulain. Les besoins sont là, et puis ça m'étonne qu'ils, les jeunes, n'aient pas été évalués avant, de dire Monsieur Forêt. La directrice adjointe aux études au Collège à Hansick, Anne Leblanc, a eu l'idée d'embaucher 1 puis 2 orthophonistes après avoir constaté, il y a 8 ans, qu'un grand nombre de jeunes en difficulté d'apprentissage avaient des troubles du langage. Le but, favoriser la réussite de ces élèves en leur permettant d'obtenir un diagnostic ainsi que des services gratuitement. Mais Anne Leblanc précise que le financement consacré aux étudiants en situation de handicap et qui ont des besoins particuliers a diminué depuis 4 ans. Les sommes par étudiant ont presque diminué de moitié, mais le nombre d'étudiants, lui, est en forte augmentation. Mélodie Lemieux-Roy, étudiante au Collège Hansick en technique d'électrophysiologie médicale, est sur la bonne voie grâce au soutien de son orthophoniste. Ça m'a permis de continuer et de persévérer. mais à son avis, la situation serait tout autre si Mathieu Saint-Pierre-Poulain n'avait pas été là. « Je pense que je ne serai plus à l'école. L'école m'aurait renvoyé, » dit-elle. Elle est organisatrice communautaire en défense des droits à moelle épinière, hémotricité et Québec. Et il sera question aujourd'hui avec elle, avec Mme Sarah Limoges, des pénalités à la rente de retraite des personnes handicapées qui ont reçu des prestations d'invalidité. Bonjour Mme Limoges.
Oui, bonjour.
Je me souviens très bien que c'est une nouvelle, effectivement, que j'avais partagée ici même en ondes au Par Actualité. Alors, d'abord, pour que les choses soient bien claires, en quoi consiste cette pénalité-là, s'il vous plaît?
Alors, si je peux faire un petit résumé de la chose.
Mais je vous en prie, c'est ce que je vous demande.
Oui, oui, tout à fait. La Régie des rentes du Québec. Alors, la principale composante de la Régie des rentes du Québec, c'est la rente de retraite qui permet aux cotisants de recevoir un montant de base, un montant mensuel dès 65 ans.
Oui.
Toutefois, les personnes peuvent, pour toutes sortes de raisons, prendre une retraite hâtive, par exemple, et recevoir cette rente de retraite dès 60 ans, donc entre 60 et 65 ans. Par contre, pour tous les mois qui vont avoir touché la rente entre 60 et 65 ans, une fois arrivé à 65 ans, il va y avoir une pénalité qui va être déduite là, du montant reçu par mois à 65 ans. Ça, c'est pour toutes les personnes qui décident de leur plein gré, de façon libre et éclairée, de prendre une retraite hâtive. Maintenant, la retraite d'invalidité, quant à elle, ça a été instauré pour assurer un revenu de base aux personnes qui ont cotisé au régime, mais qui, à cause d'incapacités graves et persistantes, peuvent exercer un emploi rémunéré.
Mm-hmm.
En 1997, le gouvernement du Québec a décidé d'appliquer la même pénalité aux bénéficiaires de la rente d'invalidité que ceux qui choisissent de prendre une retraite hâtive. Donc, entre 60 et 65 ans, il y a une pénalité qui est cumulée et à 65 ans, les personnes qui ont une rente d'invalidité se voient imposer la même pénalité.
Ce qui, évidemment, n'est absolument pas juste parce qu'ils ne, eux, c'est pas un choix. Ils ne peuvent tout simplement pas aller travailler, plus travailler. C'est
et voilà
ça.
Pourquoi Mémo Québec a travaillé très, très fort sur ce dossier-là depuis plusieurs années en collaboration avec la Commission des droits de la personne.
Alors, d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est votre organiste même hein, qui a fait cette demande-là, hein, c'est bien ça, hein?
Oui, on a déposé un avis, ainsi là, qu'un résumé de la position de Mémo Québec au sujet de ce dossier-là à la commission pour qu'elle examine du point de vue de la discrimination, là, cette pénalité-là qui est imposée automatiquement aux personnes qui ont la rente d'invalidité.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, donc, ça, c'est cet avis-là, il est composé de ce dont vous venez de me parler. Ça veut dire que vous avez dit à la commission, écoutez, ça, c'est absolument inacceptable, j'imagine. Est-ce que c'est comme ça? Et vous avez expliqué le pourquoi du comment. C'est bien ça?
Assurément. C'est pas moi qui a personnellement...
Oui, oui, non. Là, quand je dis vous, je parle de Mémo Québec.
Hein,
voilà,
tout à fait.
C'est ça.
Oui, on a déposé un avis à la commission ainsi qu'un mémoire qui est intitulé « Le régime des rentes du Québec et les personnes handicapées » que Mémo a écrit, qu'on peut retrouver en ligne, qui expose notre argumentaire à notre opposition là, à cette application de règlement-là.
Dites-moi, la pénalité, est-ce qu'on peut la chiffrer, je veux dire, en termes de pourcentage, par exemple, par année?
En fait, cette pénalité-là, à date d'aujourd'hui, pour chaque mois touché entre 60 et 65 ans, c'est environ 0,6%. Donc, jusqu'à un total maximal de 36 % en date d'aujourd'hui, qui est imposé comme pénalité rendue à 65 ans. Mmh. On a des chiffres comme quoi qu'elle tend à augmenter en 2018 à 38 %.
À 38 %?
À 38 %. Donc, le montant reçu par mois est diminué de 30, va être diminué de 38 % à 65 ans pour ceux qui ont touché la rente entre 60 et 65 ans.
Est-ce qu'on a bon espoir de les faire changer d'avis?
Écoutez, pour nous, c'est une belle victoire à Mémo-Québec parce que la commission a oui. publié un communiqué bon. Ainsi qu'un avis mm-hmm. qui a étudié la question
oui.
et qui fait mention que cette pénalité-là contrevient à la Charte des droits et libertés. Donc, bon. La commission recommande d'abolir cet article-là.
Bon, maintenant, la parole est au gouvernement.
Bien sûr.
Hein? Alors vous allez suivre ça de très très près, Madame Limoges.
Notre travail, tout à fait.
Voilà. Et puis nous, bah, écoutez, nous continuerons de évidemment d'informer notre public hein, au sujet du suivi sur ce dossier-là, parce que c'est effectivement totalement injuste et injustifié. Enfin, encore une fois, il y a quelqu'un qui a pensé trop vite, peut-être, non?
Oui, tout à fait.
Bon, mais écoutez, Sarah Limoges, je rappelle que vous êtes organisatrice communautaire en défense des droits à moelle épinière et motricité Québec, Mémo Québec. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions sur Canal M et on continue de se tenir au courant. Passez une belle journée.
À vous également, bonjour.
Et je vous en prie, au revoir. Par actualité régionale, sur le site d'ICI Radio-Canada Estrie, on peut trouver cette nouvelle, une salle multisensorielle pour retrouver le calme. Le centre de réadaptation La Forêt de Drummondville compte maintenant une salle multisensorielle. Cette dernière s'inspire de l'approche thérapeutique Snozzelen qui vise à développer un environnement sécurisant et apaisant. Les installations ont été inaugurées jeudi après-midi par le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. La salle multisensorielle est blanche et on y retrouve des objets pour les cinq sens, un diffuseur d'odeurs, une colonne de bulles apaisante qui change de couleur, une chaise qui s'apparente à une balançoire, un divan et des outils thérapeutiques. Le centre de réadaptation croit que cet environnement permettra aux jeunes âgés de 13 à 18 ans, hébergés à l'unité de traitement individualisé en santé mentale, d'augmenter leur estime personnelle, de développer leurs aptitudes en communication et de reconnaître puis de gérer leurs émotions. Les jeunes sont accompagnés d'un éducateur. Il y a de la musique douce, on apaise l'enfant et on lui permet un retour au calme, explique Hélène Goulet, chef de service des unités La Relève et La Clairière au centre de réadaptation. On a remarqué qu'avec cette approche-là, depuis 6 mois, on a diminué d'environ 60% des pratiques dérangeantes comme l'utilisation d'une urgence sécuritaire. C'est l'endroit où les enfants sont emmenés quand ils sont désorganisés, ajoute Madame Goulet. Dans la Tribune, Mathieu Vachon écrit aujourd'hui, en fait c'est sorti je pense il y a déjà quelques jours, que Andy Apt espère une meilleure reconnaissance dans la région. Ayant pour mission première le maintien à domicile des personnes handicapées, Andy Apt tiendra un souper-conférence afin d'amasser des fonds. Une personne handicapée a envie, comme monsieur et madame tout le monde, de vivre dans son environnement. Bien entendu, ces personnes n'ont pas envie de quitter leur domicile à l'âge de 25 ans seulement pour se retrouver en CHSLD parce qu'elles ont besoin de services précis. C'est donc pour cette raison qu'Andy Apt existe, note la directrice générale José Fontaine. Andy Apt offre les services de travailleurs qualifiés et de bénévoles qui viennent en aide aux personnes aux prises avec un handicap dans les tâches quotidiennes de la vie. Toutefois, l'organisme est encore très peu reconnu à travers la région cherbrouquoise. C'est donc pour cette raison que l'équipe de gestionnaires organise un souper-conférence en plus d'amasser une certaine somme pour optimiser l'offre de ses services. Dans un premier temps, cet argent va venir soutenir le service à domicile des personnes handicapées physiques et par le fait même, on veut se donner une meilleure visibilité afin qu'un plus grand nombre de personnes soient en mesure de faire appel à nos services, estime Madame Fontaine. Le conférencier sera le chercheur Lawrence Poole qui, en fauteuil roulant, étudie les lois de la nature dans la jungle. Monsieur Poole est devenu handicapé à la suite d'un accident de voiture il y a 30 ans. Le souper-conférence à saveur costaricaine se tiendra le mardi 30 mai à compter de 18h à la salle du Parvis. Il est possible de se procurer des billets pour l'événement au coût de 90 $ en téléphonant au 819-562. 88 77 819 562 8877, poste 0. Louis Adam est directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division Québec. Nous sommes en plein au cœur du mois de sensibilisation à cette maladie. La sclérose en plaques, les services offerts par la Société canadienne de la SP, c'est ce dont il sera question aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Adam.
Bonjour, bon matin.
Mais oui, bon matin à vous aussi. Monsieur Adam, peut-être faut-il le rappeler, parce qu'il y a peut-être des gens qui ignorent encore ce qu'est la sclérose en plaques. Pourriez-vous rapidement nous dresser le portrait de cette maladie? D'ailleurs, ce n'est pas forcément une maladie. Hein. Est-ce que vous l'appelez comme ça? Est-ce que vous l'appelez maladie?
On l'appelle maladie, évidemment, parce que c'est une maladie du système nerveux central qui touche la gaine de myéline sur les nerfs, dans le fond, et qui va occasionner toutes sortes de désordres chez les personnes. Quand on parle de désordre, on parle de perte de vision, de perte de sensibilité, de paralysie, de perte d'audition. Alors, des différents éléments, évidemment, parce que le système nerveux central, c'est un système complexe, évidemment. Oui. Alors, les gens vont être touchés un peu différemment de l'un à l'autre.
Oui.
C'est une maladie qui touche trois fois plus de femmes que d'hommes, entre 15 et 40 ans.
Est-ce qu'on sait pourquoi, ça?
On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose dans notre environnement qui fait en sorte que c'est ainsi. Et non seulement qu'on ne sait pas pourquoi, mais ce qui est particulier comme pour la sclérose en plaques, c'est une maladie, pas qu'on dit canadienne, mais c'est une maladie où c'est au Canada que le taux de prévalence est le plus élevé dans le monde. On n'a pas compris encore la raison pour laquelle c'est comme ça chez nous, mais semble-t-il qu'il y aurait quelque chose dans notre environnement, comme je vous le disais, qui fait en sorte que c'est chez nous que la maladie frappe le plus.
Alors,
on parle de 100 000 Canadiens, Canadiennes, autour de 20 000 Québécois, Québécoises, évidemment. Le plus de Québécoises, comme je vous le disais, c'est trois fois plus de femmes que d'hommes.
Mm-hmm.
Et évidemment, la maladie se présente sous différentes formes. Par exemple, la plus courante étant la forme poussée-rémission, où les gens vont vivre des deuils, par exemple, vont perdre une partie de sensibilité, vont perdre en partie la vision ou complètement la vision, et qui vont retrouver après ça ces facultés pour vivre toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans le fond, pour ça, à savoir quand la maladie va frapper.
Oui. C'est une maladie très dure physiquement et psychologiquement aussi. Hein?
Non, effectivement. Alors, la société, notre rôle, c'est de venir en soutien aux personnes qui sont atteintes de la maladie de différentes façons. Alors, évidemment, la première partie de notre mission, qui est aussi une partie très importante, c'est de financer la recherche.
Oui.
Et heureusement, grâce au financement qu'on a réussi à obtenir par nos collègues de fonds depuis plusieurs années, il y a une douzaine de traitements actuellement qui existent pour la forme poussée-rémission. Et la forme de SP progressive, évidemment, où les gens sont en deuil continuel, où on va arriver bientôt avec un nouveau traitement. Mais ça crée beaucoup, beaucoup d'espoir auprès des personnes atteintes.
OK.
Alors, on finance la recherche et on donne des services aux personnes qui sont atteintes. Alors, les services qu'on donne, par exemple, on a des groupes d'entraide, de l'écoute téléphonique, de l'information, des capsules web. On a un congrès pour les familles, pour les gens qui sont atteints et leurs familles. On a des camps de vacances pour les jeunes qui ont un parent qui est atteint de sclérose en plaques. Alors, on a des conférences, tout ce qu'on peut faire, évidemment, pour briser l'isolement d'une personne qui est atteinte de la maladie, puis pour soutenir les proches aussi.
Oui. Comme vous en parlez, moi, je ne sais pas combien de personnes apprennent quotidiennement ou en tout cas hebdomadairement qu'elles sont victimes de cette maladie-là, et donc l'entourage aussi, forcément. Rappelez-nous tout de suite, s'il vous plaît, Monsieur Adam, où peut-on trouver toutes ces informations-là pour savoir, OK, je vais où, je me tourne vers quoi, qu'est-ce que je peux faire pour utiliser les services que vous offrez?
Alors, on a des sections partout à travers le Québec. Alors,
d'accord.
La société au Québec est organisée avec 18 sections locales
qui
couvrent l'ensemble du territoire du Québec. Évidemment, quand on reçoit un diagnostic de sclérose en plaques, la première chose qu'on va faire, c'est de s'adresser à son neurologue, d'aller voir en neurologie, évidemment, si le diagnostic est bon et si c'est vraiment ça auquel on doit faire place. Il y a une dizaine de cliniques de sclérose en plaques au Québec, dont les plus importantes, je vous dirais, à l'hôpital Notre-Dame, à l'Institut de neurologie, évidemment, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, sur la rive sud de Montréal.
Ils sont vraiment consacrés à l'ASP, à la sclérose en plaques.
Oui, ils sont vraiment consacrés à l'ASP. Puis ça, c'est extrêmement intéressant pour les personnes qui sont atteintes parce que dans le système hospitalier, à ce moment-là, il y a un endroit spécifique où ils vont les rencontrer et ils ont des neurologues qui sont des spécialistes en sclérose en plaques à ce moment-là. Et ils vont être soutenus en plus par des infirmières qui vont donner l'information sur la maladie, qui vont référer justement à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour le soutien après le diagnostic. Et heureusement, je vous dirais aujourd'hui, grâce à la recherche, puis je veux vous en parler un peu parce que c'est important.
Oui, allez-y, M. Adam.
Avec les traitements qu'on a, les gens vivent mieux avec la maladie qu'avant généralement. Je parle généralement, évidemment, parce que c'est pour tout le monde. Alors, je vous dirais, il y a une quinzaine d'années, 80 % des gens qui recevaient un diagnostic devaient quitter l'emploi à cause de symptômes, par exemple, comme la grande fatigue ou évidemment, là, tous les symptômes reliés à la maladie, le faisant en sorte que les jeunes ne pouvaient pas garder leur emploi. Et aujourd'hui, on voit les gens qui se maintiennent dans l'emploi plus longtemps. Donc, on doit adapter nos services aussi à cette nouvelle réalité là, des personnes atteintes. On doit utiliser plus les médias sociaux.
Oui.
Sorte que les gens aillent chercher l'information de façon différente. Parce que les gens qui reçoivent un diagnostic aujourd'hui de sclérose en plaques vont probablement avoir moins de poussées ou les écarts entre les poussées vont
être plus
longues. Tu sais. Alors, c'est des bonnes nouvelles, évidemment, au niveau de la recherche.
Oui, je comprends. Très rapidement, monsieur Adam, mais je veux qu'on en parle, puisque c'est le mois de l'ASP, beaucoup d'activités de sensibilisation et des activités de financement aussi. On ne pourra pas les nommer toutes, mais on pourrait peut-être en nommer quelques-unes quand même.
On a les marches de l'espoir qui s'en viennent le 28 mai. Alors, partout à travers le Québec, là, il va y avoir des marches. À Montréal, dans la grande région de Montréal, c'est au Parc Angrignon, qui est une marche qui débute vers 9h le matin, le 28
D'accord.
mai. On vient de sortir de la campagne de l'œillet. On a le défi golf qui s'en vient au début du mois de juillet, le vélotour à la fin du mois d'août, le gala uni pour la sclérose en plaques le 31 mai. Alors, on est en pleine activité, évidemment, là, de sensibilisation puis de collecte de fonds. On doit ramasser de l'argent pour financer nos activités de recherche puis financer les services qu'on donne à la population.
Alors, pour vous envoyer de l'argent, on passe par le net, on fait quoi?
Oui, passez par le web, évidemment. Mm-hmm. Par le net, vous allez voir c'est tout ce qu'il faut pour participer à un événement ou encore financer une personne qui va participer à une activité ou encore donner directement à la société. C'est important parce qu'il y a de l'espoir.
Mais oui, absolument.
On va finir par y arriver. Là.
Alors,
on doit vraiment maintenir nos activités.
D'accord, M. Adam.
Alors, le plus vite possible.
Mais absolument. Et je vous remercie beaucoup de nous en avoir parler encore une fois ce matin. Je rappelle que pour aller sur le site, c'est simplement scléroseenplaques.ca, donc c'est vraiment très facile. Et là, vous allez pouvoir trouver toutes les informations, que ce soit au niveau des activités ou des possibilités de financement. Monsieur Adam, Louis Adam, je vous souhaite une très belle journée et ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui.
À vous aussi. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Par actualité nationale, plus de 10 000 personnes atteintes d'un handicap intellectuel sont sur des listes d'attente pour des programmes d'aide. La demande en recours collectif en leur nom suit son cours. Nous sommes en Ontario. Une demande de recours collectif a été déposée le mois dernier afin de forcer la province à offrir aux adultes atteints d'un handicap intellectuel des services sans devoir attendre des années. Cette demande est en attente de certification. Si elle l'obtient, le recours sera fait au nom de tous les adultes en attente de services développementaux depuis le mois de juillet 2011 et cela pourrait représenter plus de 14 000 familles selon l'avocat Jody Brown qui a déposé la demande en recours collectif. Madame Wynne avait promis en 2014 d'éliminer la liste d'attente pour les programmes aux adultes avec un handicap intellectuel, mais au contraire, cette liste s'allonge, précise Madame Gibson, la maman d'un enfant qui vit avec un handicap intellectuel. Actuellement, la demande de service surpasse de loin l'offre, si bien que des milliers de personnes sont laissées pour compte sur des listes d'attente. Certes, des mesures ont été prises pour mieux uniformiser et normaliser l'accès aux ressources d'urgence, mais le processus suivi pour établir les priorités et allouer des fonds limités manque grandement de cohérence, indique un rapport envoyé au gouvernement ontarien. En France, les six promesses d'Emmanuel Macron aux personnes handicapées. Le candidat Emmanuel Macron a pris différents engagements sur la politique du handicap sur son site de campagne, dans des meetings ou lors du débat télévisé du second tour. Alors, une feuille de route attend maintenant le d'ores et déjà président des Français, du moins depuis hier. Officiellement. Nous porterons l'allocation adulte handicapé au-delà de 900 euros par mois. 900 euros par mois, c'est à peu près 1 400 $ canadiens. Je ne veux plus de personnes en situation de handicap sans solution, a-t-il également déclaré. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger, a-t-il garanti. Nous faciliterons la scolarisation des enfants handicapés. Il s'est engagé, M. Macron, à donner accès à un ou une auxiliaire de vie scolaire à tous les enfants en situation de handicap qui en ont besoin pour avoir une scolarité comme les autres. Nous améliorerons l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, a-t-il déclaré, ainsi que nous organiserons l'accessibilité autour de la personne et nous aiderons les aidants. Voici pour le programme d'Emmanuel Macron en regard aux personnes handicapées. En rafale maintenant, information et consultation sur l'accessibilité des services et soins de santé dans les CIUS de Montréal, dans le cadre d'une démarche de consultation menée par le regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain. Le RAM invite ses membres à une rencontre de discussion sur les obstacles rencontrés en matière d'accessibilité des lieux et des équipements médicaux dans les 5 CIUS de Montréal. Ça aura lieu le vendredi 26 mai de 9h30 à 12h. Rappelons que le RAM est situé à Montréal au 5225 rue Berry, local 100. Inscription à la 37e rencontre familiale annuelle de l'ACPEV. Ce sera le samedi 3 juin prochain. La date limite d'inscription, en revanche, c'est pour le vendredi 19 mai 2017. L'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, vous invite à participer à sa 37e rencontre, oui, familiale annuelle et à son assemblée générale ouverte à tous le samedi 3 juin 2017 à l'hôtel Mont-Gabriel à Sainte-Adèle. Au programme dîner, AGA des membres, cocktail, souper banquet, suivi d'une soirée meurtre et mystère pour les parents, suivi d'une soirée dansante parents-enfants et plus inscrits. Et autres participants. L'activité des jeunes de 6 ans et plus sera au camp EDFI International avec transport et accompagnement des moniteurs de la Fondation des aveugles du Québec. Et le service de halte garderie pour les enfants de 0 à 5 ans de l'ACPEV sera offert sur place sous la supervision d'éducatrices spécialisées. On s'informe à accueil@aqpev.qc.ca. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une bonne journée. À demain, 11h30.